Quelques événements marquants de ce début d'année, l'évasion de Carlos Ghosn, évadé du Japon, et le retour de Catherine Dutu. Il n'y a pas a priori de lien entre l'un et l'autre, mais enfin Catherine Dutu est là, et puis on va parler de Carlos Ghosn. On va revenir non seulement sur l'évasion de cet homme, mais aussi et surtout sur la manière dont il présente la cabale dont il aurait été victime. Que peut-on savoir aujourd'hui de manière précise? Nous serons en compagnie de Mathieu Suc, journaliste à Mediapart. Il a publié Renault, ni d'espion aux éditions HarperCollins et il nous donnera son point de vue sur les propos de Carlos Ghosn. En attendant, il est 7h30 sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. Et voici d'ailleurs le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Est-ce la fin de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine? Les deux poids lourds de l'économie mondiale s'apprêtent en tout cas à signer une trêve à Washington aujourd'hui. Donald Trump compte bien en profiter à 10 mois d'élection présidentielle pour vanter ses efforts en matière de réduction de la balance commerciale. On parle, Grégory Phillips, de près de 300 milliards de dollars en défaveur de Washington face à Pékin.
Les détails de cet accord commercial ne seront dévoilés qu'à la mi-journée après la cérémonie de signature organisée à la Maison-Blanche. Mais selon les États-Unis, la Chine est prête, afin de rétablir un peu la balance commerciale entre les deux pays, à acheter plus de produits agricoles américains, plus de produits manufacturés, des voitures, des avions, ce qui est une bonne nouvelle pour Boeing. Les montants seront précisés tout à l'heure, mais le mois dernier, Donald Trump avait évoqué une enveloppe totale de 200 milliards de dollars. Il ne s'agit toutefois que de la phase 1 de l'accord. Washington prévient d'ailleurs, il n'est pas question pour l'instant de lever les tarifs douaniers de 25% imposés à 250 milliards de dollars d'importations chinoises. En revanche, d'autres tarifs seront réduits de moitié et une autre partie annulée. Pour Trump, l'annonce de ce demi-accord est en tout cas une bonne nouvelle politique. À 10 mois de la présidentielle, les agriculteurs américains notamment ont beaucoup souffert ces deux dernières années avec de grandes difficultés à exporter leurs produits et leur soja en particulier. Cette pause dans cette guerre commerciale sino-américaine parlera sans aucun doute à cet électorat.
Mais derrière les arguments de Donald Trump, cet accord s'éloigne peut-être des objectifs initiaux que s'étaient fixés les États-Unis. Inquiétant qui plus est pour les Européens, estime Sébastien Jean, directeur du Centre d'études de prospective et d'information internationale.
Il y a même un côté paradoxal, hein, puisque plusieurs des engagements qui sont annoncés vont favoriser les investissements américains en Chine. Mais donc ça, c'est une façon de favoriser de la localisation d'entreprises américaines en Chine, hein, des délocalisations. Or, l'administration affiche l'objectif de réindustrialiser les États-Unis. Donc c'est assez peu cohérent. Et puis l'autre volet, ce sont des engagements d'achat par les Chinois de produits américains. Le risque pour les Européens, c'est que, et pour d'autres pays tiers, hein, c'est que ces achats par les Chinois de produits américains se fassent au détriment des autres fournisseurs de la Chine. Les Américains nous ont dit au départ, ça va pas du tout, la concurrence avec la Chine, parce que la Chine n'est pas une économie de marché. Et ils finissent par nous dire, ben, on s'est entendu sur le montant des achats qu'ils vont nous faire dans les 2 ans qui viennent, ce qui est absolument incompatible avec l'idée d'économie de marché. Donc ça montre quand même aussi le degré d'incohérence de discours et des actions du gouvernement américain.
Sébastien Jean, directeur du Centre d'études prospectives et d'information internationale, il répondait à Marie Viennot. Sans se joindre, disent-ils, à la campagne de pression maximale contre l'Iran menée par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne demandent à l'Iran de revenir au respect de ses engagements sur le nucléaire, sans évoquer pour autant de nouvelles sanctions. Toujours en Iran, mais dans un autre dossier, ce sont finalement 2 missiles et non pas 1 qui auraient été tirés depuis une base militaire près de Téhéran avant d'abattre l'avion civil ukrainien le 8 janvier dernier. Information du New York Times. Les autorités iraniennes ont annoncé, elles, de leur côté, hier, des arrestations dans le cadre de cette enquête, alors que des manifestations ont encore eu lieu à Téhéran dans le sillage de l'indignation provoquée par ce drame. À la une en France, des pneus et des palettes pour bloquer les accès aux principaux ports français. Des feux allumés depuis hier à Saint-Nazaire, par exemple. Les dockers et les ouvriers portuaires sont en grève. Donc, depuis hier, ils ont prévu de rester mobilisés jusqu'à demain soir. Ils espèrent bloquer ainsi l'économie française pour exiger le retrait de la réforme des retraites. Une grève à l'appel de la Fédération nationale CGT des ports et des docks. Philippe Martinez sera d'ailleurs l'invité des matins de France Culture à partir de 8h20 au lendemain de cette cette déclaration d'Édouard Philippe lors de la séance des questions au gouvernement. Le Premier ministre a estimé qu'il faudrait sûrement prendre une mesure d'âge pour équilibrer le régime des retraites en 2027, semblant ainsi orienter la discussion qui doit s'ouvrir entre les partenaires sociaux lors de la conférence de financement. Sur les retraites, mais aussi l'écologie et le malaise à l'hôpital, les critiques de Ségolène Royal ont fusé ces dernières semaines depuis son compte Twitter ou dans des entretiens à la presse. Ce qui pêche, a-t-elle déclaré aujourd'hui, c'est la concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns qui décident pour 60 millions de Français. Ségolène Royal de dénoncer également l'ego machiste de l'exécutif. L'ex-candidate socialiste à la présidentielle s'estime ce matin licenciée de ses fonctions d'ambassadrice des pôles. L'exécutif la somme de faire taire ses critiques et envisage de mettre fin à son rôle car elle se serait éloignée de son devoir de réserve, Stéphane Robert.
Ségolène Royal a reçu une lettre le 7 janvier dernier, une lettre envoyée par le secrétaire général du Quai d'Orsay, lui indiquant qu'il est envisagé de mettre fin à ses fonctions d'ambassadrice des pôles lors d'un prochain Conseil des ministres, ainsi que le veut la procédure. Depuis quelques mois, l'ancienne ministre de l'écologie est critiquée pour son dilettantisme à ce poste depuis 2 ans et demi. Elle n'a assisté à aucune des réunions du Conseil de l'Arctique et elle est accusée par le service investigation de Radio France de profiter des moyens qui lui sont alloués à des fins personnelles. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle sera vraisemblablement démise de ses fonctions. C'est pour avoir publiquement mis en cause la politique du gouvernement, précise la lettre. Elle a notamment critiqué l'action de l'exécutif ces dernières semaines sur les pesticides, sur la réforme des retraites, sur la gestion des hôpitaux publics. Or, il lui avait été rappelé, indique le secrétaire général du Quai d'Orsay dans un courrier du 11 janvier 2018, que les fonctions qu'elle exerce impliquent un devoir de réserve. Elle paie peut-être aussi un crime de lèse-majesté lorsqu'elle avait critiqué fin décembre la décision d'Emmanuel Macron de renoncer à sa retraite de président. La question est plutôt de savoir s'il va retourner dans le business mondialisé où les retraites chapeaux sont sans commune mesure, avait-elle persiflé. En tout cas, elle avalise cette décision étant donné que pour sa part, elle n'a pas l'intention, dit-elle, de renoncer à sa liberté d'expression. Certains croient percevoir dans l'agitation médiatique ces dernières semaines de l'ex-candidate socialiste un nouvel éveil de ses ambitions présidentielles.
Un mot du temps de ce mercredi 15 janvier, pluvieux sur le nord-ouest de l'Hexagone, ensoleillé plus généralement dans le reste du pays. Les températures seront plutôt douces pour la saison, comptez de 3 à 9 degrés ce matin d'est en ouest. Cet après-midi, il fera entre 10 et 14 degrés sur la moitié nord du pays, 12 à 16 dans le sud, Guillaume Herner.
Merci Catherine Dutu. 7h36 sur France Culture. La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Vous revenez ce matin sur une profession de foi qui n'est pas passée inaperçue hier dans le monde de la finance.
Oui, une grande prise de conscience écologiste que l'on doit, il faut le dire, au plus gros acteur mondial en matière d'investissement et de gestion d'actifs. J'ai nommé Larry Fink, le grand patron du géant américain BlackRock, société dont on a pas mal parlé ces dernières semaines en France pour l'influence qu'on lui a prêtée sur la réforme des retraites et la promotion d'un système de retraite par capitalisation. BlackRock, donc, nous rappelle le Financial Times, fait la pluie et le beau temps dans le monde de la finance, car la société gère pour le compte de ses clients plus de 7000 milliards de dollars d'actifs à travers la planète. Autant dire que la lettre annuelle de bonne résolution que son PDG envoie chaque mois de janvier à ses investisseurs a bien plus d'influence que toutes les mesures économiques des gouvernements et des banques centrales réunies. Or donc, cette année, salue le Wall Street Journal, BlackRock jure de verdir sa politique d'investissement, de privilégier les entreprises qui seront vraiment engagées contre le réchauffement climatique et transparente sur leur impact sur l'environnement. L'argent colossal géré par BlackRock, qu'on se le dise, sera désormais réservé aux bons élèves de la transition écologique, car, nous explique Larry Fink, le changement climatique est en train de redéfinir la finance internationale. Même tonalité dans le New York Times, qui se fait aussi l'écho de cet équivalent de la bénédiction Urbi et Orbi rapportée au monde de l'argent. Il y a là de quoi refonder entièrement la manière dont on fait du business en Amérique.
Vu le poids financier de BlackRock, c'est forcément une bonne nouvelle, non?
A priori, oui, reconnaît le Financial Times dans son éditorial, lequel remarque tout de même que ça fait des années que BlackRock alerte régulièrement sur les risques liés au climat, mais il a jusque-là échoué à mettre en pratique dans ses choix d'investissement ses grandes déclarations d'intention. En fait, une ONG qui a surveillé ses activités estime que les engagements déjà pris à la même période l'an dernier n'ont été tenus qu'à 12% par BlackRock, ce qui laisse une sacrée marge de progression. Plus sceptique encore, Matt Levine pour Bloomberg imagine comment la lettre et les recommandations écologistes de Larry Fink vont être accueillies, par exemple par les dirigeants de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco, dont BlackRock est le principal actionnaire étranger. Vont-ils trembler et se convertir soudain au tout renouvelable? On connaît déjà la réponse, nous dit Matt Levine. Il rappelle que l'an dernier, les recommandations de BlackRock à ses clients pour qu'ils adoptent une gouvernance plus éthique et s'engagent pour rendre la société meilleure n'avaient pas empêché l'Arabie Saoudite, entre autres méfaits, de faire assassiner le journaliste Jamal Khashoggi, ce qui d'ailleurs n'a pas empêché non plus BlackRock ensuite de renforcer sa participation au capital de Saudi Aramco.
Car BlackRock est et devrait rester le plus gros investisseur au monde dans les énergies fossiles.
Avec des profits conséquents qui lui sont notamment assurés par ses parts aux capitaux d'ExxonMobil, de Glencore ou de Chevron, les principaux acteurs du pétrole américain, le géant de la finance aura beau verdir sa façade, tranche Edward Ongwesso Jr. pour Vice News, le géant de la finance restera cette année encore le plus gros investisseur donc au monde dans les énergies polluantes. Or, plutôt que de louer la clairvoyance de ses dirigeants, on ferait mieux de les traîner en justice pour crimes contre l'humanité, écrit le journaliste qui poursuit. Toutes les décisions prises jusque-là par BlackRock ont privilégié son profit au détriment de la planète et de ses habitants. Ces investissements ont accéléré le réchauffement climatique et précipité l'effondrement qui vient, effondrement sur lequel les scientifiques nous alertaient pourtant depuis des décennies. Moins accablant tout de même, Matt Levine conclut sur ce qu'est réellement BlackRock, selon lui, une société qui, quel que soit son poids et son influence, a perpétuellement besoin d'attirer plus d'argent et donc plus de clients. Pour cela, elle fixe ses caps en matière d'investissement au gré des vents dominants du moment, une sorte de caisse de résonance qui amplifie en les déformant les préoccupations de l'époque. Aujourd'hui, BlackRock investit donc de manière symbolique dans la soi-disant finance verte, mais qu'on se le dise, ça ne l'empêchera pas de continuer à soigner ses clients pollueurs.
Et puis on reparle à présent du Brexit et Boris Johnson, Camille, qui veut soigner les détails du D-Day. Ce D-Day, il est toujours prévu le 31 janvier.
Et parmi ces détails pour le grand jour du Brexit, le Premier ministre britannique semble tenir à ce que les cloches de Big Ben à Londres résonnent au moment précis où sera effective la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Le souci, eh bien, il l'a reconnu hier dans une interview à la BBC, c'est que cette coquetterie a un coût vraiment pas donné.
Bonds cost £500,000, but
yes,
because
very costly bonds.
But we're working up a plan so that people can bung a bob for a Big Ben bong. I haven't quite worked it out.
But I love the fact you're developing policy. $500,000 de livres sterling, soit près de 600 000 euros. C'est un peu cher pour un carillon, avoue Boris Johnson, mais il explique que la tour de Big Ben au palais de Westminster est en rénovation depuis maintenant 2 ans, que le battant de la célèbre cloche a été retiré pour les travaux. The Guardian précise qu'il n'était pas prévu de remettre tout ça en service avant l'an prochain, mais pour célébrer comme il se doit donc le Brexit, le Premier ministre veut qu'on remonte le mécanisme, qu'on installe pour ça un plancher temporaire sous la cloche. Bref, une facture totale de 500 000 livres sterling pour quelques bongs, tout historique soit-il. Ça fait tout de même 50 000 livres par coup de cloche, remarquait lundi le nouveau speaker de la Chambre des communes, quand celle-ci a refusé en commission de débloquer la somme. Mais Bojo n'a pas dit son dernier mot. Sur le plateau de la BBC hier, il évoquait donc l'idée d'un financement par les citoyens, une campagne participative qu'il propose d'appeler Bung Bob for Big Bang Bong. Ça sonne bien, ça se traduirait, l'allitération en moins, par une petite pièce pour faire sonner Big Ben, beaucoup moins accrocheur, il faut bien le dire, en français.
Merci Camille Magnard. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr. Alors comme vous avez cité le Guardian, moi je vais continuer cette lecture du Guardian, le journal britannique, avec une mise en garde du fabricant d'instruments Yamaha qui dit qu'il faut arrêter de playing gone. Qu'est-ce que ça veut dire playing gone? Eh ben, ça veut dire qu'il ne faut plus s'amuser à rentrer dans des boîtes d'instruments, notamment, j'imagine, dans des boîtes de contrebasse, parce que les boîtes de clarinette, c'est plus compliqué. Il faut arrêter parce que c'est dangereux et que beaucoup trop de gens se sont amusés à cela. On va parler immédiatement de Carlos Ghosn, pas seulement des boîtes d'instruments.
Les matins de France Culture, 7h-9h. Guillaume Erner.
7h43, dans la nuit du 29 au 30 décembre, Carlos Ghosn s'évadait du Japon, devenait l'un des fugitifs les plus célèbres de la planète. Derrière l'affaire Ghosn, c'est tout un enchevêtrement d'intérêts géopolitiques et économiques qui est mis au jour de son interpellation en novembre 2018 à ses récentes prises de parole. Pour y voir plus clair, nous recevons aujourd'hui Mathieu Suc, journaliste à Mediapart, auteur de Renault, ni d'espion, publié aux éditions HarperCollins. On va revenir sur cette affaire d'espionnage pour cela remémorer Mathieu Suc. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on entende Carlos Ghosn. Il s'est aujourd'hui largement expliqué, défendu avec de nombreux plaidoyers pour expliquer en quoi il était innocent. Écoutez.
Il n'y a pas un euro qui est rentré dans mon compte bancaire et qui, je vous le dis, je suis innocent sur les 4 charges et je suis prêt à le prouver. Et je dois vous dire que, vous savez que tous mes comptes en banque ont été épluchés, hein, tous. En France, aux États-Unis, tout a été épluché. Pas les miens, de toutes les personnes qui ont été suspectées. Ahmed Bawan, son père, Kumar, Joufali, tout a été épluché, tout. Si vous pensez un instant que si les procureurs avaient trouvé un seul virement douteux, ils n'auraient pas mis en première page, parce que eux, ils disent qu'ils n'ont pas le droit de parler, mais en fin de compte, nous savions par la presse qu'ils passaient tout à la presse, je dirais, on se fait des illusions. S'il y avait la moindre preuve, ce serait déjà su, ils n'ont rien.
Mathieu Suc, Carlos Ghosn parle, il parle beaucoup, mais au fond, lorsqu'il dit qu'il est absolument innocent, est-ce que l'on peut confronter ses propos à des faits, par exemple? Au travers de vos enquêtes, que sait-on aujourd'hui sur ce que Carlos Ghosn a fait ou n'a pas fait?
Alors déjà, effectivement, faut être assez prudent par rapport aux propos de Carlos Ghosn. Bon, il est mis en cause, il se défend et sa parole est libre, il a le droit de dire exactement ce qu'il veut. Ce qu'on sait, c'est que par le passé, à chaque fois qu'il a été mis en cause dans des affaires lorsqu'il dirigeait Renault ou Nissan, il a eu un rapport qu'on pourrait qualifier de distant avec la vérité lors de prises de parole publiques où il présentait les faits de la manière qu'il l'arrangeait. Et par ailleurs, dans cette affaire-ci, pour sa conférence de presse et pour toute la gestion de la crise, il a 3 agences de communication. Il y a celle d'Anmeo en France dont on a beaucoup parlé, mais il y en a aussi une aux États-Unis et au Japon. Donc tout ça est très calibré et on n'est pas obligé de tout prendre pour parole d'évangile. Maintenant, la difficulté qu'on a, c'est que l'essentiel de l'affaire se passe bien sûr au Japon, donc on est un peu distant. On a d'un côté cette défense qui a le droit de dire ce qu'elle veut, mais qu'on peut prendre avec précaution. Le parquet japonais, alors peut-être qu'il alimente les journalistes japonais, mais pour l'instant, il a quand même une... Il se tient un silence. Voilà, donc on a du mal à faire la part des choses. Maintenant, ce qui gêne Ghosn, ce qu'on peut dire factuellement, c'est que il y a ces 4 incubations au Japon. Mais il y a aussi le fait que Carlos Ghosn a signé un accord qui ne vaut pas reconnaissance de culpabilité, mais pour lequel il paye une amende $1 million aux gendarmes de la bourse américaine qui, sur la foi du dossier japonais, lui reprochait d'avoir dissimulé aux investisseurs $140 million de revenus qui, certes, il n'avait pas encore touché, il a raison de le dire.
Ce sont des revenus différés.
Mais justement, c'est ce que lui reprochent les procureurs japonais, c'est d'avoir voulu cacher la rémunération effective en la retardant.
Alors, Carlos Ghosn, là-dessus, est très clair. Il dit que c'est un settlement, autrement dit un règlement. Ça existe dans la justice américaine. Et donc, qu'il a en quelque sorte préféré ce settlement $1 million parce que sinon, il entrait dans une procédure longue, coûteuse, avec des frais d'avocat de l'ordre de $3 million par an. Autrement dit, il était plus simple pour lui d'avouer, j'ai envie de dire, en partie sa culpabilité, parce qu'un settlement, ça n'est pas nécessairement une culpabilité.
Non, c'est culpabilité.
Pour éteindre, en tout cas, l'affaire, qu'il était plus rationnel d'éteindre l'affaire plutôt que d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu Suc?
Je sais pas, vous, demain, le fisc vous reproche d'avoir barboté 10 000 euros, est-ce que vous en payez 1 000 si vous êtes complètement innocent? Enfin, il y a quand même là-dedans quelque chose d'assez gênant. $1 million, c'est quand même une somme. Si on est innocent, si on n'a absolument rien à se reprocher, enfin, est-ce qu'on paye? Et par ailleurs, ce qui le gêne aussi, c'est qu'il y a aussi... donc. Le volet nippon, les États-Unis, mais il y a par ailleurs en France et aux Pays-Bas, Renault et Nissan qui ont mandaté un audit, un cabinet d'expertise indépendant, qui, en regardant les comptes de la filiale qui chapeaute les 2 entreprises Renault et Nissan, dit qu'il y a entre 12 et 14 millions, j'ai un trou, d'euros de dépenses injustifiées pour le seul bénéfice de son PDG, donc Carlos Ghosn. Donc, si vous
alors,
voulez...
là aussi, sur ces 12 millions d'euros, il y a aujourd'hui une procédure contradictoire qui pourrait être en cours, puisque, encore une fois, Carlos Ghosn nie tout. Et alors, en particulier, ce n'est pas en fait la somme principale, mais sur le plan symbolique, cela a beaucoup compté, cette fameuse fête qui a eu lieu à Versailles et qui a été présentée comme étant sa fête d'anniversaire. Ghosn dit qu'il ne s'agit pas de cela, qu'il s'agit d'une réception donnée par l'entreprise pour des clients ou des associés de l'entreprise. Qu'en est-il, Mathieu Suc?
Alors, là-dessus, c'est quand même assez fort de café. Et c'est nos confrères de l'Obs qui avaient révélé ce volet de l'affaire et qui s'étaient procuré la liste des invités. Donc, c'est soi-disant, c'est la fête pour les 20 ans de l'alliance Renault-Nissan. Vous avez trois personnes de Renault et Nissan qui sont parmi les invités. Trois seulement sur une centaine. Les autres personnes, vous avez essentiellement des gens qui sont de la diaspora libanaise, qui sont les proches de Carlos Ghosn. Ce ne sont pas des gens qui sont en affaires avec Renault ou avec Nissan, ce ne sont pas des gens qui même ont affaire à ou avoir avec le business de l'automobile, ce sont des proches de Ghosn, et pour un certain nombre d'entre eux, et des membres de la famille de Ghosn, et pour un certain nombre d'entre eux, ce sont les mêmes qu'on va retrouver lors d'un autre volet dont on parle moins, qui est celui du Festival de Cannes, où Renault est sponsor, et où Ghosn va passer un week-end fastueux qui va coûter un million d'euros, je crois, de mémoire, et où il est avec plein de proches, et ce ne sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'entreprise.
Mégalomane, c'est une accusation qu'on peut faire, mais en tout cas, ce n'est pas une infraction devant la loi. Est-ce que on a aujourd'hui, là encore, des preuves qu'il a, par exemple, par le biais de ses résidences, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas nié, à ceci près que on l'accuse initialement dans la presse d'avoir fait, je fais court, un abus de bien social, d'avoir utilisé l'argent de ces entreprises pour s'acheter des résidences dans plusieurs lieux dans le monde, lui dit que ce sont des logements de fonction. Qu'en est-il, Mathieu Suc?
Alors, il a raison. Oui, ça a été acheté par les entreprises. Après, on peut juste s'étonner qu'il y ait donc qu'il ait un logement au Japon, siège de Nissan. Un logement en France, siège de Renault, c'est totalement légitime. Il y a pas de souci avec ça. En revanche, qu'il ait un appartement donnant sur la plage à Rio et une maison au Liban où les intérêts des deux entreprises sont quand même assez légers, voilà. La seule raison, c'est que il y a sa mère au Brésil, qu'il est né là-bas, qu'il a grandi pour partie là-bas, et qu'il est libanais, qui passe les trois quarts de son temps au Liban. Donc voilà, ce n'était pas caché. Par contre, là, ça peut interroger d'un point de vue de l'éthique.
Carlos Ghosn dit que c'est une cabale et qu'il y a finalement chez Nissan, en particulier des gens qui refusaient l'alliance, et ces gens-là, eh bien, n'ont hésité sur aucun procédé pour le faire tomber, y compris donc ce complot. On présente comme étant des affaires délictueuses, des choses qui étaient connues de tous dans ces entreprises, Mathieu Suc.
Alors, moi, j'ai pas d'éléments me permettant d'affirmer qu'il y avait un complot, et j'attends toujours de les voir venir. Ce que je note, ce qui est quand même intéressant, c'est que Carlos Ghosn, dans son histoire, s'est toujours fâché avec les gouvernements successifs en France, qu'ils soient de droite ou de gauche, et la raison principale que lui reprochaient les gouvernants, c'est que il favorisait tout le temps Nissan au détriment de Renault, et qu'il essayait de faire baisser la participation de l'État au sein de Renault et de faire monter celle de Nissan. Donc c'est marrant, là, ça serait parce qu'il serait en train d'essayer de faire exactement l'inverse, qu'on l'aurait chassé. Je note que les gens qu'il désigne dans son complot ne lui ont pas survécu, c'est-à-dire que Nissan s'en est séparé par la suite, donc c'est quand même un complot assez mal ficelé, et que le principal, donc son numéro 2, Sakawa, celui qu'on va voir en conférence de presse le jour de son arrestation, il venait de le nommer comme son successeur, donc il y avait un intérêt quand même extrêmement léger à le faire chuter, si ce n'est qu'il avait peut-être découvert des choses qui le choquaient.
Mais alors, ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que finalement, si l'on suit Mathieu Suc, c'est-à-dire vous-même, journaliste à Mediapart, vous révélez dans Renault ni d'espion une affaire qui a été très largement médiatisée, mais dont on n'avait pas vraiment compris les tenants et les aboutissants. Une affaire d'espionnage, une affaire assez nébuleuse dont je vous propose, Mathieu Suc, de rappeler les éléments principaux. Mais en tout cas, celle-ci révèle que le monde de l'automobile était en proie à un certain nombre de complots qui finalement n'ont rien à envier aux livres d'espionnage.
Et oui, et on retrouve la conclusion aujourd'hui avec son extradition rocambolesque. Donc en 2011, début 2011, Renault va licencier trois très hauts cadres, sur ordre de Ghosn, qu'il suspecte d'avoir fait de l'espionnage au profit de la Chine. Et ça vient sur la place publique, il y a une enquête judiciaire, et on va découvrir que les trois hauts cadres sont absolument innocents, et que en fait, ce sont des barbouzes du propre service de sécurité de Renault qui aurait, alors un ou plusieurs barbouzes, ça va être jugé prochainement, aurait monté une escroquerie pour soutirer de l'argent à Renault. Donc Renault est clairement victime, Ghosn ne peut pas être suspecté d'être le complice de cette escroquerie, bien sûr. Ce qu'on découvre par contre, c'est que c'est Ghosn qui commandite des actions d'espionnage à l'encontre de ses propres salariés et qui même privilégie son service de sécurité par rapport au service de l'État. Ce qui en dit long et ce qu'on retrouve maintenant.
Mais alors, si on prend cette affaire, là aussi, la défense de Ghosn est aisée en partie parce que vous révélez d'ailleurs, Mathieu Suc, puisque tout simplement, Renault a été escroqué par un certain nombre de cadres. Alors, je suis pas du tout juriste, je sais pas dans quelle mesure on a le droit d'espionner des cadres qui, pour là aussi le faire court, se faisaient verser sur des comptes offshore des sommes avec, bien entendu, une inégalité absolument complète. C'était une manière pour eux d'avoir un complément de rémunération, mais qui n'était évidemment pas connu.
Qui était infondé. Enfin, c'était...
Bah, c'est toujours infondé, bien sûr, puisque là, c'était un compte offshore.
Mais mais en fait c'était faux, il y avait pas de versement. Ce qu'on peut noter
à ceci près que Ghosn dit que
lui non plus.
Non seulement lui non plus, mais qu'il a fallu que Renault enquête pour être certain que ceci était ou non effectif.
Oui, sauf que les accusations les plus graves vont être portées par l'enquête de Renault, et alors qu'elles sont fausses. Ce qui est marrant, c'est quand même de constater que à l'époque, il dit, quand il va se séparer de ses hauts cadres sur la base donc d'accusations fausses, il se dit non, mais c'est pas grave. De toute façon, quand on a un doute, on se sépare. Et aujourd'hui, il dit mais attendez, moi, on me vire de Nissan, on respecte pas la présomption d'innocence.
Mathieu Suc, est-ce que finalement cette affaire, je parle de la totalité de l'affaire, c'est-à-dire aussi bien de cette affaire d'espionnage que ses suites et aujourd'hui ce à quoi on assiste avec Ghosn, au-delà de la question juridique, il peut y avoir une question morale, on peut se dire qu'effectivement avoir une maison à 15 millions de dollars à Beyrouth alors que manifestement ça ne peut pas être considéré comme étant un lieu stratégique pour Renault-Nissan, ça révèle plus les mœurs dans ces énormes entreprises que des questions qui sont véritablement faciles à trancher sur le plan juridique.
Alors oui, bien sûr, ça c'est ce qu'on reproche à Ghosn. Enfin, pour moi, Ghosn, en enquêtant, je trouvais que c'était une caricature de tout ce qu'on peut reprocher à des grands PDG de multinationales. Simplement, il le pousse encore plus loin. Et quand vous discutez d'ailleurs, c'est quand même assez marrant, c'est que dans la carrière, le MEDEF lui-même a pris des positions extrêmement dures sur Carlos Ghosn au moment de l'affaire des faux espions, mais aussi au moment où on découvre qu'il cachait une partie de son salaire de Nissan.
Lui dit qu'il n'était pas tenu de le révéler.
Oui, c'est vrai. La loi ne lui imposait pas. Enfin, non, il dit la loi m'interdisait de le révéler. C'est faux. La loi ne lui imposait pas. C'est une nuance. Mais bon, bref,
à cette nuance près, il lui était loisible. Contrairement à la loi française.
Oui, oui, tout à
la
fait.
Loi française oblige à ces grandes entreprises cotées.
Mais c'est intéressant. C'est que quand cette loi japonaise change et lui impose de le révéler, c'est le moment où il cherche à en croire l'accusation japonaise actuelle, où il cherche à masquer les augmentations de salaire qu'il va s'attribuer depuis 2011. Donc voilà, mais encore une fois, le MEDEF, moi j'ai jamais vu, je suis pas un spécialiste de la presse économique, mais j'ai jamais vu le MEDEF prendre des positions publiques aussi dures contre un patron que contre Carlos Ghosn. et pas à une reprise, mais à plusieurs reprises.
Il y a aujourd'hui cette évasion, que je ne qualifierai pas parce que chacun a la possibilité de le faire, avec là aussi un coup faramineux, si l'on croit le canard enchaîné du jour, qui évoque entre 12 et 20 millions de dollars pour cette opération, avec une partie qui est la caution, parce que Carlos Ghosn a payé 12 millions de dollars de caution au Japon, et il semblerait que le Japon ne soit pas prêt de lui restituer cette caution. Ça signifie, Mathieu Suc, qu'il y a aujourd'hui des PDG qui peuvent avoir des fortunes d'actionnaires, puisque pour régler ça, il faut avoir un argent qui est sensiblement supérieur à celui d'un salarié.
Oui, tout à fait. Mais bon, et par ailleurs, sur cette fortune-là qu'il a, qui est estimée, je crois, à l'heure actuelle à 140, enfin entre 120 et 150 millions d'euros, on peut pas lui reprocher. C'est de l'argent dûment gagné. Alors le montant peut choquer, on peut en disserter. Ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est que quelque part, c'est la privatisation de moyens qui sont le propre de la souveraineté d'État, c'est-à-dire une exfiltration. De la même manière que mon affaire des faux espions, on le voyait commanditer des actes d'espionnage, on a là un patron qui réalise ce que autrefois seul un État pouvait faire. Une exfiltration, rappelons les exfiltrations célèbres dans le temps, c'est quand le Mossad israélien va chercher le Eichmann, le génocidaire Eichmann, en Argentine. Là, c'est un patron pour se soustraire à un État de droit. Ça pose quand même des questions sur la société dans laquelle nous vivons à l'heure actuelle.
Avec une question morale, mais là, je laisse chacun juger pour savoir comment on peut reprocher ou pas à Carlos Ghosn de s'être évadé du Japon. On a entendu Jean-Luc Mélenchon dire qu'on ne pouvait pas reprocher à un homme de s'être évadé. D'autres, évidemment, ont un point de vue contraire. Renaud Nid d'Espion, c'est le livre que vous publiez aux éditions HarperCollins, Mathieu Suc, où l'on découvre effectivement les mœurs dans les grandes entreprises. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, pour évoquer le conflit social sur les retraites et une stratégie front contre front. Avec quelle issue? Eh bien, vous le saurez aux environs de 8h20. Merci Mathieu Suc de nous avoir rendu visite. Il est 8h sur France Culture. Et voici un point sur l'actualité par Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et l'on commence par celle qui paye ses nombreuses critiques envers le gouvernement ces derniers mois. Ségolène Royal sera démise de sa charge d'ambassadrice des pôles le 24 janvier prochain. Le gouvernement souhaite mettre fin à ses fonctions bénévoles. Pour le ministère des Affaires étrangères, Ségolène Royal n'a pas honoré son devoir de réserve. L'ancienne ministre de l'écologie avait ouvertement critiqué l'action du gouvernement ces derniers mois, notamment sur la réforme des retraites. L'intéressée prend acte, c'est elle qui annonçait la nouvelle hier soir d'ailleurs. Mais Ségolène Royal dit se tenir prête à défendre sa liberté d'expression inscrite, dit-elle, dans la Constitution. La réforme des retraites, décriée donc par certains, une nouvelle journée d'action se profile. Depuis hier, plusieurs grands ports maritimes français sont bloqués à l'appel de la CGT. Jusqu'à vendredi d'ailleurs, la compagnie maritime Corsica Linea, anciennement SNCM, a annulé toutes ses traversées entre la Corse et Marseille. Côté ferroviaire, le trafic connaît une légère amélioration à la SNCF, comme à la RATP en Ile-de-France. Et pour élaborer cette réforme des retraites qui n'est toujours pas écrite, le Premier ministre s'est montré un peu plus clair hier devant les députés à l'Assemblée nationale. Édouard Philippe, qui avait promis aux syndicats de supprimer l'âge pivot pour leur permettre de trouver une autre solution de financement, Édouard Philippe donc dit maintenant penser que les discussions déboucheront sur une mesure d'âge pour équilibrer le système. Nous recevrons Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, invité des matins de France Culture à partir de 8h20 tout à l'heure. C'est une autre pression qui agace les syndicats aussi. Hier, Emmanuel Macron a demandé des propositions pour améliorer la déontologie policière. Des propos alors que la police est confrontée à de nouvelles accusations de violence. Un peu plus tôt hier, c'est le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui les appelait à l'exemplarité. L'UNSA Police souligne l'épuisement des forces de l'ordre et appelle le gouvernement à ne pas oublier le contexte de conflit social en ce moment, contexte de violence également lors des manifestations. L'actualité ce mercredi, c'est aussi aux États-Unis un accord commercial avec la Chine qui se profile. La première phrase de cet accord doit être signée dans la journée. Selon Washington, Pékin serait prêt à acheter davantage de produits manufacturés américains. Mais le secrétaire au Trésor prévient déjà, les États-Unis maintiendront les droits de douane sur les produits chinois jusqu'à l'achèvement de la phase 2 de cet accord commercial. Aujourd'hui aussi aux États-Unis, la Chambre des représentants va voter pour transmettre au Sénat l'acte d'accusation qu'elle a retenu contre Donald Trump. Il s'agit de l'ultime étape avant le début du procès en destitution du président républicain. Procès devant le Sénat qui devrait commencer le 21 janvier, c'est-à-dire mardi prochain. Enfin, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne souhaitent déclencher le mécanisme de résolution des différends, un mécanisme prévu par l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Les trois signataires veulent ainsi préserver le compromis qui avait été conclu avec l'Iran, alors que Téhéran ne s'imposera bientôt plus de limites pour l'enrichissement d'uranium. L'engagement de cette procédure européenne est une erreur stratégique, répond déjà ce matin la diplomatie iranienne. Nous revenons en France pour une météo qui est sensiblement la même qu'hier. Des pluies tombent sur le quart nord-ouest du pays, laissant le reste des régions au sec et ensoleillé. Ce matin, il fait 4 degrés à Besançon, 10 degrés à Lille, Paris, Bordeaux, 11 degrés à Lyon, 13 degrés ce matin à Marseille. Voilà pour ce point d'actualité qui était raccourci ce matin. Il est 8h04. Un point d'actualité raccourci en raison d'un appel à la grève d'une organisation syndicale à Radio France. Elle proteste toujours contre un plan d'économie proposé par la direction. Nous retrouvons donc à 8h15 Frédéric Seyss pour le billet politique qui est consacré ce matin au paradoxe d'Anne Hidalgo. Et puis Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, invité des matins de France Culture à partir de 8h20.
En raison d'un appel à la grève émanant d'une organisation syndicale représentative à Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
À la brigade de Stup, qui vous laissait un scoop, là que l'ancien matapa me demande un autographe. Brigade de stup, je leur dis je fume que les troupes, je suis la petite boue du cinématographe.
En raison d'un appel à la grève émanant d'une organisation syndicale représentative à Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
Eu quero. Vous écoutez France Culture.
Samba Gelayo. Vous écoutez France Culture.
Tout de suite, le retour de vos programmes sur France Culture.
Et oui, avec dans une demi-heure vos rubriques habituelles, la séquence TTC avec la transition d'Hervé Gardette. Il y aura du tennis, vous entendrez, vous comprendrez pourquoi. Mathilde Serrel, elle, se penchera sur les Oscars. Et puis Aurélien Bélanger consacrera sa conclusion à la pédophilie. On va recevoir dans quelques instants le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui nous donnera son point de vue sur la manière dont le conflit social évolue. 42 jours de grève et après, c'est le titre de La Croix. Les salariés grévistes de la RATP s'interrogent sur l'avenir de leur mouvement et on l'interrogera. Et puis, un billet politique avec vous, Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous ce
avec,
matin.
Dans votre billet aujourd'hui,
le paradoxe Anne Hidalgo, conspuée mais favorite. Pourquoi ?
Allez, dans quelques instants.
France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture présente Trois aventures de Brooke de Yuan King. Brooke, une jeune chinoise, crève un pneu de son vélo sur une petite route du nord de la Malaisie. Cet incident est le point de départ de trois aventures distinctes et comme parallèles, provoquées par trois rencontres différentes. Retrouvez Xu Fengyi et Pascal Grégory dans le premier film ludique et délicat d'une réalisatrice pékinoise, disciple d'Éric Rohmer. Trois aventures de Brooke, un film de Yuan King, aujourd'hui au cinéma. Un partenariat France Culture.
8h16. Le billet politique, Frédéric Saïs, Anne Hidalgo, officiellement candidate.
Oui, c'est la fin d'un suspense à peu près nul. À dire vrai, la seule interrogation concernait la date de l'annonce. Avouons que c'est un peu mince. Alors, on ne va pas se concentrer ce matin sur les guerres picrocollines et les controverses d'arrondissements parisiens qui passionnent déjà peu de monde à l'intérieur du périphérique et encore moins au-delà. En revanche, ce qui est intéressant chez Anne Hidalgo, c'est qu'elle revêt un double paradoxe. D'abord, c'est une figure socialiste qui résiste au milieu d'un naufrage généralisé du PS. Ensuite, elle est sans doute l'une des personnalités politiques qui ont été les plus moquée, dénigrée, décriée, et pourtant, elle aborde cette élection avec le statut de favorite. Pourquoi ? Sur le premier paradoxe, on peut aller assez vite. Certes, en une décennie, le socialisme a fondu comme neige au soleil à peu près partout, sauf dans les grandes métropoles. Le PS règne encore à Lyon, à Lille, à Strasbourg, à Nantes, à Rennes et donc à Paris, ce qui s'explique par la prégnance dans ces villes des électeurs diplômés et ou aisés, en moyenne plus acquis au centre-gauche, un phénomène que les esprits un peu rapides surnomment la gauche caviar. En creux, cela montre aussi l'éviction en partie des classes populaires de ces villes. Le second paradoxe est plus intéressant. Il suffit de se promener dans une librairie au rayon actualité pour constater qu'Anne Hidalgo fait vendre et vendre à son détriment. Les titres des livres ne sont pas ambigus. Notre drame de Paris, la reine-mère, Sainte-Anne, sans oublier le très subtil, les dents de la mer, M-A-I-R-E bien sûr, qui sort ces jours-ci. Inutile de préciser qu'on n'est pas ici dans la géographie. Alors certains d'entre eux se sont très bien vendus, jusqu'à 30 000 exemplaires. La maire de Paris cible régulière des réseaux sociaux aussi, y compris de la part de personnalités. C'est ainsi que Jean-Marie Bigard a réagi sur Twitter à cette nouvelle candidature.
Elle vient de passer les 6 milliards d'endettement de la ville, ce qui ne s'est jamais produit. Hein. Faut vraiment une personne très incompétente pour arriver à faire ce déficit record. 6 milliards. Elle se dit, bon, moi, je veux continuer, moi.
Voilà, peu importe que les notions de dette et de déficit soient ici allègrement confondues, la vidéo a été partagée plus de 1300 fois et aimée plus de 5000 fois. N'en jetez plus, voici et donc la mère sortante ensevelie sous les colibés. Et pourtant donc, Anne Hidalgo est invariablement donnée première et de loin dans les sondages. Par ailleurs, aucun membre de sa coalition n'ose partir en dissidence et la défier dans les urnes. Voilà donc une candidate qu'on disait affaiblie et qui se révèle plutôt coriace.
Mais pourquoi on veut des hypothèses, Frédéric ?
Alors, trois hypothèses, Guillaume. 1. Les réseaux sociaux ne sont pas si importants que cela. À l'heure où de nombreux gourous de la communication politique estiment que plus rien n'est possible sans l'onction de la vox populi médiatique, le cas Hidalgo sonne comme un démenti. en particulier Twitter, qui ne représente pas le corps électoral et encore moins la société française. C'est un panel intéressant pour faire circuler des idées auprès des militants, des journalistes, mais en aucun cas un forum représentatif des 44 millions d'électeurs français. Deux, les critiques les plus dures contre Anne Hidalgo ne viennent pas toujours de ceux qui voteront in fine à Paris. Prenons l'exemple des voies sur berge, devenues piétonnes, ce qui a occasionné des bouchons et des désordres. Pour faire simple, la colère est davantage venue de l'automobiliste de banlieue, ulcéré d'être bloqué dans sa voiture en traversant la capitale, que du riverain qui fait son footing près de la Seine. Sauf que le premier n'est pas électeur à Paris, le second, si. Évidemment, on peint ici à gros traits, mais cela peut expliquer ce décalage entre le ressenti global et les enquêtes d'opinion. Troisième hypothèse, le camp d'Anne Hidalgo semble préparé, solide et uni, surtout par contraste avec les autres écuries. C'est la guerre civile à droite, où Rachida Dati est en froid avec son parti Les Républicains. C'est l'anarchie chez les macronistes, où le bal tragique entre Griveaux et Villani risque de faire deux morts eux-mêmes. C'est l'incohérence chez les écologistes, où une aile veut s'allier au centre, l'autre, elle, veut s'ancrer à gauche. Résultat, pour l'heure, Anne Hidalgo semble faire corps avec la devise de la ville de Paris. Elle est battue par les flots, mais elle ne coule pas.
Merci Frédéric Saïs. On retrouve votre billet politique sur le site de France Culture, franceculture.fr, bien sûr.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
8h20 sur France Culture, il faut savoir terminer une grève, on n'en est pas loin, a déclaré Édouard Philippe ce dimanche, mettant en avant comme un geste de compromis sa décision de suspendre, au moins temporairement, la mesure controversée de l'âge pivot. Assiste-t-on à un tournant dans le mouvement social contre la réforme des retraites? L'horizon d'une fin de conflit est-il maintenant en vue? La CGT, qui reste vent debout contre le projet du gouvernement, parviendrait-elle à mobiliser à nouveau ses troupes pour obtenir le retrait de la réforme? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Philippe Martinez. Bonjour, vous êtes secrétaire général de la CGT. Et tout à l'heure, avant 8h, on parlait de votre patron, Carlos Ghosn.
Mon ancien.
Est-ce que vous auriez un mot de compassion pour lui, Philippe Martinez?
Aucun. Aucun. Je trouve que on en fait beaucoup sur une évasion qui est traité dans tous les sens et on le présente comme un héros qui a combattu le mal. Enfin, la réalité, c'est que, et moralement, et je pense d'un point de vue juridique, il y a beaucoup de choses à redire. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui a pratiqué une politique d'austérité, qui a supprimé, j'ai du mal à compter, mais sur l'ensemble du groupe, près de 150 000 emplois, qui a fait une casse sociale terrible. C'est le même qui nous disait « on peut pas augmenter vos salaires, vous êtes trop payés ». Et quand on voit son salaire et les avantages qu'il a tirés de l'entreprise, enfin, c'est moralement inacceptable. Et puis, il y a quand même le moins qu'on puisse dire, même si bon, faut avancer des preuves, mais un mélange entre sa responsabilité de patron d'une grande entreprise et quelques affaires privées dont il aurait pu tirer profit, voilà.
Sans lui, le groupe marche beaucoup moins bien, il a créé beaucoup de choses, le Duster, par exemple, Philippe Martinez, est-ce que malgré tout, ça n'est pas une mauvaise chose qu'il ne soit plus à la tête de Renault?
Cher monsieur, premièrement, les produits chez Renault, même le Duster, c'est d'abord les salariés qui l'ont fait, c'est pas Carlos Ghosn. Moi j'insiste, il y a du savoir-faire chez Renault, beaucoup de salariés ont d'ailleurs beaucoup d'imagination, y compris sur les voitures propres. Carlos Ghosn a toujours dit, vous avez une petite anecdote, chez Renault on nous demande plus est-ce que ça marche, on nous demande combien ça rapporte. Vous voyez la nuance? C'est un petit peu ce qui court dans les milieux de l'ingénierie. Carlos Ghosn a surtout racheté beaucoup d'entreprises. C'est ce qui fait que le groupe s'est développé, mais il n'a pas développé l'emploi chez Renault. Il a beaucoup profité aussi davantage dans les pays à bas coût, comme on dit, avec des accords avec les gouvernements, pas toujours très démocratiques. On peut parler de la Turquie, par exemple, où les délégués syndicaux sont réprimés, il n'y a pas le droit à la contestation. Voilà la croissance qu'a produit Carlos Ghosn. Mais en termes d'emploi, c'est la catastrophe. En termes de mesures sociales, c'est la catastrophe. Et même en termes de produits, hein. Même en termes de produits, il a raté quelques opportunités de développement de produits, notamment on parle beaucoup de la voiture électrique. Enfin, il y a des limites dans le développement de la voiture électrique, parce que je pense que il a d'abord fait des opérations de communication plutôt que de s'appuyer sur la technicité des salariés. Et puis, par exemple, la gamme Renault est absente sur le moteur hybride, et je pense que c'était un virage qu'on aurait pu prendre avant. En tout cas, les salariés de Renault étaient prêts.
Philippe Martinez, le conflit social en cours en France, j'évoquais le titre de La Croix, 42 jours de grève. Et après, avec ce propos d'un gréviste, sommes-nous prêts à accepter que c'est mort? Est-ce que pour vous c'est mort, Philippe Martinez?
Pas du tout. Pas du tout. Y a deux aspects. Évidemment, pour ceux qui attaquent leur 42e jour de grève, c'est difficile. C'est difficile. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, y a besoin d'ailleurs que médiatiquement, ça, on en parle plus. On a beaucoup stigmatisé sur les cheminots et les agents de la RATP. Entre parenthèses, vous savez, la RATP, quand vous allez à Rodez, c'est beaucoup plus flou que quand vous êtes en région parisienne. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, enfin déjà la semaine dernière, les portuaires, les dockers était en grève, la Banque de France est en grève, dans l'énergie il y a des grèves, enfin il y a des grèves partout. Alors évidemment, le gouvernement joue une stratégie d'isolement des salariés de la RATP et de la SNCF, parce que quand les trains ne roulent pas, ça se voit. Mais ce conflit, il est ancré. Mais il faut venir sur le fond. Vous avez peut-être lu la lettre que le Premier ministre nous a envoyée, qui nous dit « notre réforme, elle est juste et simple ». Alors, simple, plus ça passe, moins la comprend, et je regardais un sondage hier, 68% des Français ne comprennent pas cette réforme et sont inquiets de cette réforme. Si elle était si simple et si juste, il n'y aurait pas d'inquiétude.
Enfin, le système antérieur n'était pas beaucoup plus simple, Philippe Martinez.
Il était très simple. Il était moins.
Expliquez-moi
juste.
Pourquoi.
Il est simple. C'est, vous avez un âge légal et vous devez avoir un certain nombre de trimestres, pour pouvoir partir. Alors, les réformes successives, dont d'ailleurs Édouard Philippe a contribué, lui directement ou ses pairs, comme M. Juppé par exemple, a dégradé le système. Mais c'est simple, vous avez un âge et un nombre de trimestres. Le problème, c'est qu'on a augmenté le nombre de trimestres nécessaires pour partir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que l'âge légal est à 62 ans, vous le savez très bien, une majorité de Français sont obligés de partir après pour pouvoir avoir une pension. L'âge pivot, il existe déjà d'ailleurs.
Frédéric Seitz.
Et plusieurs responsables syndicaux opposés à cette réforme des retraites appellent de nouveaux publics à rejoindre la grève en disant « on a besoin de soutien ». Ils pensent notamment aux étudiants, aux fonctionnaires et à plusieurs autres corps. Pourquoi ce renfort jusqu'à présent au 42e jour de grève, effectivement, ne vient pas? Qu'est-ce que vous ratez dans ce que vous appelleriez la jonction des luttes? Pourquoi ça ne vient pas?
Parce que quand on touche 1000 euros ou 1200 euros par mois, on a déjà du mal à boucler les fins de mois. Donc chaque journée en moins sur son salaire, c'est compliqué.
Enfin, pour les étudiants, par exemple.
Les étudiants, je pense qu'il y a besoin que le monde du travail et le monde étudiant discutent beaucoup plus. On l'a vu déjà par le passé, que ce soit sur la loi travail ou sur la réforme des universités ou la loi Blanquer. Il y a besoin de renouer ces liens entre la jeunesse et le monde du travail. Or, le président de la République a toujours développé cette idée que il y avait le vieux monde, c'est-à-dire nous, par exemple. Et puis la jeunesse, les start-up, l'auto-entrepreneuriat, etc.
Enfin, et ça prend dans la jeunesse française, selon vous?
Je pense que les liens qu'on a pu connaître à une époque, y compris avec les organisations syndicales de jeunesse, nécessitent d'être renoués. Il y a besoin d'aller débattre dans les universités, que des étudiants viennent débattre avec dans les entreprises. Je pense qu'on a des efforts à faire de ce point de vue-là.
Philippe Martinez, la différence entre 1995, la grève de 1995 et aujourd'hui, c'est que pour ceux qui s'en souviennent, et c'est-à-dire pas Frédéric Seitz, mais les autres,
nous deux.
On a beaucoup marché, voilà, tous les deux, on a beaucoup marché, parfois d'ailleurs avec des banderoles à côté, mais en tout cas, la France était très désorganisée à l'époque. Aujourd'hui, il y a évidemment une gêne apportée par la grève, mais elle est sensiblement inférieure. Il y a beaucoup de corps de métier finalement qui sont peu en grève, et donc ça signifie que cette grève, elle ne prend pas tant que ça.
Premièrement, il faut de la cohérence dans les propos, pas les vôtres. Mais qu'est-ce qu'on a mis dans la figure des grévistes de la SNCF et de la RATP? Enfin, sûrement pas sur cette antenne. Enfin, prise d'otage, les pauvres enfants qui à Noël pouvaient pas aller voir leurs parents ou leurs grands-parents. Enfin, on a chargé la mule. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des grèves. Et comme en 95 d'ailleurs. En 95, il y avait une corporation qui était en grève reconductible, et puis il y avait des temps forts de grève qui étaient réguliers, et c'est pour ça que nous marchions pas tous les jours, mais régulièrement dans les manifestations. Troisième chose, c'est que ça fait 20 ans. Et le monde du travail s'est considérablement modifié. Enfin, le chômage a augmenté, vous le savez. La pauvreté a augmenté, la précarité. Enfin, il y a en 95, Uber, on ne savait même pas ce que c'était. Des travailleurs qui n'ont plus de patron. Donc c'est ça qui a changé. Et donc, quelqu'un qui est intérimaire, quelqu'un qui est précaire, en CDD, faire grève, c'est la porte. C'est la porte tout de suite.
Mais aujourd'hui, dans ce climat quand même de France, aux prises avec différents conflits sociaux, il y a bien entendu celui-ci, il y a eu les gilets jaunes. On a par exemple évoqué une convergence. Cette convergence, elle est assez peu visible. Philippe Martinez, comment expliquez-vous que les gilets jaunes qui étaient censés être omniprésents il y a quelques mois en France ne se soient pas greffés à la mobilisation contre la réforme des retraites?
Parce que là aussi, il y a besoin que le mouvement syndical, il prenne en compte cette diversité de situations dans le monde du travail. On a eu beaucoup de débats avec les gilets jaunes. Eux, ils faisaient ça le samedi parce que le samedi, eh ben, c'est pas un jour de semaine, comme tout le monde le sait. Il y a moins de gens qui travaillent et donc, pour la mobilisation, ça peut paraître plus favorable. Nous disons, il faut...
Oui, certes, mais samedi dernier, par exemple, à Paris, il y avait quasiment pas de gilets jaunes. Il y avait surtout, en fait, le public traditionnel des manifestations syndicales.
Voilà, ce qu'on constate, c'est que le samedi, il y a un public différent que la semaine. Voilà. Parce que, je vous dis, tous ceux qui... la grève, ça on découvre que la grève, ça coûte de l'argent. Que ça, c'est s'exposer à des sanctions, faut le dire aussi. Et donc, si on fait la manifestation de jeudi, les manifestations de jeudi et celles de samedi, ben, les publics sont différents et c'est ça qui fait la force. Mais il y a encore besoin de convaincre que l'action syndicale, c'est indispensable. Mais moi, je suis heureux qu'après les dénigrements de la phase de l'année dernière où les syndicats ne servaient plus à rien, on s'en prend quand même pas mal dans la figure. Permettez-moi de vous le dire. J'écoutais votre chronique sur Anne Hidalgo. Ça nous fait un point commun sur les caricatures, sur le dénigrement, sur les mensonges, etc.
Tous les secrétaires généraux de la CGT sont caricaturés depuis Krasucki. C'est comme votre quoi, lot. Vous deviez le savoir quoi, avant d'accepter le job.
Comme quoi, pour des gens qui ne servent à rien, qui sont inutiles et qu'on ne parle plus d'eux de régulièrement. Voilà.
Vous n'avez pas encore le même palmarès dans les librairies, mais sans doute que ça va venir après. Non, mais
je ne l'en dis pas, je parlais juste de caricatures et d'insultes.
Concernant cette conférence sur le financement qu'a proposé la CFDT, qui a été reprise par le Premier ministre dans sa lettre, pour trouver des solutions, dit-il, sur l'équilibre du système, avec des solutions avant la fin avril, issues de cette conférence, quelle est la position précise de la CGT? On ne l'a pas très bien compris jusqu'à présent. Vous avez dit, en gros, on n'est pas hostile à essayer de trouver des idées pour l'équilibre en général, mais ça nous semble être ici un piège avec peu d'options possibles. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous y allez ou vous faites la chaise vide?
Alors, premièrement, nos propositions, je sais bien que on parle de contestataires et de réformistes et que la parole des uns est plus reprise que la parole d'autres. Nous, les propositions, ça fait des mois qu'on les fait. Et d'ailleurs, on a eu une séance de travail avec Monsieur Delevoye sur le financement. C'était il y a 3 mois. Moi, j'ai pas fait le 20h de France 2.
Contrairement à Laurent Berger.
Contrairement à d'autres. Mais les propositions, elles sont là. Qu'est-ce qu'on dit? Et je l'ai dit vendredi dernier au Premier ministre. J'ai dit, si vous voulez un vrai débat, trouver des solutions, faut tout mettre sur la table. Il m'a dit, ok, vous venez avec vos experts, c'est projet contre projet. C'est ça un débat. Bon, le lendemain, on reçoit un courrier qui nous dit, on a retenu l'idée de conférence de financement, mais on n'a pas le droit de parler des augmentations de salaire, qui génèrent des augmentations de cotisations, on n'a pas le droit de parler des exonérations de cotisations sociales patronales, on n'a pas le droit. Ça veut dire...
Pourquoi vous voulez parler de ces points-là, Philippe Martinez? Expliquez-nous. Pourquoi expliquez-nous?
Augmenter les salaires, c'est une nécessité pour pouvoir vivre, mais automatiquement...
Mais sur les cotisations patronales.
Attendez, mais automatiquement, parce qu'il faut le redire, parce qu'on nous dit baisser les cotisations, c'est bon, ou supprimer les cotisations, c'est bon pour le pouvoir d'achat. C'est faux. Ça permet d'augmenter les salaires et les cotisations sociales. C'est ce qui permet de payer le moins possible, parce que malheureusement, maintenant, on paye quand on va à l'hôpital. Ça finance les retraites. Les exonérations de cotisations patronales, les aides... Les exonérations, c'est 200 milliards par an. Et on nous embête pour un déficit entre 7 et 14 milliards.
200 milliards, ça me paraît un chiffre énorme.
Les exonérations de cotisations, les aides publiques, CICE, crédit impôt recherche, les niches fiscales, etc., etc. C'est énorme. Hein.
Là, il faut sommer beaucoup de choses. Mais bon, je vous laisse évidemment libre de votre calcul, Philippe
Martinez.
Mais
on dit qu'il n'y a pas d'argent. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Bah, nous, on dit, voilà, allez chercher. La fraude fiscale, on ne sait pas parce que, par essence, la fraude, c'est pas très public, non, c'est entre 60 à 80 milliards, vous voyez, des sous. Donc, cet argent-là, il sert à quoi?
Philippe Martinez, est-ce que cette stratégie front contre front, puisque aujourd'hui, finalement, non, c'est cela. Pourquoi c'est pas une stratégie aujourd'hui, vous demandez le retrait de la réforme.
Non, le retrait et l'amélioration du système actuel. Et donc, pour finir sur votre question,
chaise vide ou pas?
Comment on conçoit le dialogue social dans ce pays? Est-ce que c'est un projet du gouvernement et on a le droit de le discuter à la marge, la virgule, le point-virgule, où on dit, voilà, il y a deux
conférence
projets.
De financement, c'est pas à la virgule, quand même.
Mais je vous dis que le Premier ministre nous a écrit en nous disant, on discute de tout, sauf de ça.
Il a balisé le chemin, mais est-ce que le chemin, vous le prenez tout de même ou pas? Vous n'avez pas répondu à la
question. On est en train
de
discuter.
D'accord, c'est pas encore tranché.
Et nous avons répondu au Premier ministre, parce que, d'ailleurs, cette lettre est publique, vous pourrez la consulter, pour lui dire, nous, notre conception du dialogue, c'est on met tout sur la table et on discute.
Dans La Croix, aujourd'hui, toujours ce dossier sur la grève, il est question de négociations avancées à la SNCF et à la RATP. Est-ce que ça signifie que la grève pourrait cesser? Elle est déjà largement amoindrie, atténuée dans ces deux entreprises?
Oui. Ok, je vous écoute, allez-y.
Vous voyez le sens de ma question. Est-ce que d'après vous, on est sur le point d'avoir une reprise complète du travail parce qu'il y a des négociations avancées dans ces entreprises et que finalement, on est dans du catégoriel?
Non, il y a sur la question de la retraite, le conflit n'est pas terminé. Il y a la CGT à la SNCF comme à la RATP demande des négociations. La SNCF, par exemple, depuis l'année dernière, vous savez, il y a eu un changement, une réforme sur la SNCF. Il y a eu des promesses de fait, y compris par le gouvernement. Eh bien, depuis un an et demi, rien n'a bougé. Donc, des négociations, on en veut. Sur les questions d'emploi, sur les questions de salaire, sur la sécurité. Enfin, il y a des accidents. Donc, nous, on est prêts à discuter. Mais c'est le gouvernement qui ne tient pas ses engagements.
Là, en l'occurrence, c'est pas le gouvernement. C'est au niveau des entreprises que doit se faire la négociation.
La SNCF, le gouvernement, ne joue pas, vous croyez? Hein, un petit peu quand même.
Expliquez-moi, vous connaissez mieux les choses que moi.
Vous aussi, vous connaissez les choses. Qui a fait la réforme de la SNCF? C'est bien le gouvernement. Vous savez bien que c'est même avec le changement de statut, c'est quand même le gouvernement qui tient les rails, c'est le cas de le dire, de la SNCF, comme à la RATP. Ce sont des entreprises publiques. Donc les engagements de l'année dernière, nous, on demande à ce qu'ils soient tenus, y compris, il y a besoin de créer des emplois à SNCF, il y a besoin d'augmenter les salaires, comme partout.
Et justement, par rapport à cela, que vous répond-on au gouvernement? Est-ce que là-dessus, vous n'avez pas de réponse? Est-ce qu'il n'y a pas de négociation? C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout simplement une politique de non-communication entre le gouvernement et vous, ou celle-ci ne vous satisfait pas?
C'est une politique de communication du gouvernement vis-à-vis de l'opinion publique, et je vous dis que ça ne marche pas, parce que tous les sondages montrent que le mouvement social, il est majoritairement soutenu, 60%.
Bon, on va pas discuter des chiffres, mais disons qu'il y a aussi, évidemment, de plus en plus de gens qui considèrent que c'est long, 42 jours.
Et nous aussi. Et les grévistes, vous croyez pas qu'ils considèrent que c'est long? 42 jours. Moi, je vous dis que ce mouvement, il est soutenu majoritairement. Et quand une réforme, j'insiste, simple et juste, personne ne la comprend, même le ministre en charge de mener ce projet sur les retraites, il n'arrive pas à expliquer. Ouais, moi je lui pose une seule question. Qu'est-ce que c'est qu'une carrière complète pour pouvoir toucher au moins les 1000 euros? Vous le savez, vous?
J'ai cru comprendre que c'était vous êtes journaliste. Au moins 37 ans et demi de cotisation.
C'est des points maintenant, vous voyez, vous êtes comme moi. Il y a une question et personne ne sait répondre. Et quand le ministre en charge du dossier n'est pas capable de répondre à cette question, qui est quand même une question essentielle de la réforme, ça pose question.
Frédéric Saïs, posez une question.
Sur la conférence de financement, là encore, vous avez contesté le casting, si j'ose dire, avec le gouvernement qui a affirmé que les syndicats invités à participer à cette conférence de financement devaient être représentatifs à hauteur de 5% des voix dans les élections professionnelles, ce qui, selon vous, est un seuil beaucoup trop bas, parce que ça fait venir à peu près des organisations non représentatives, selon vous. Ça fait venir, voilà, sous-entendu, l'UNSA qui est favorable à cette conférence de financement et qui est un syndicat dit modéré.
Mais il y a, enfin, là c'est pareil, il y a une loi sur la représentativité. En France, il y a des lois. Il y a une loi sur la représentativité qui définit qui est représentatif dans ce pays. C'est, ça s'appuie sur les élections, donc c'est le seuil, c'est 7% ou 10% dans les branches. Là, on invente une règle, par hasard, qui dit, bah non, on va en prendre un à 5%. Pourquoi on change la... Il y a une loi, ou alors on change la loi. Ça veut dire que des syndicats minoritaires pourrait être plus important que des syndicats majoritaires, mais c'est valable. Vous voyez, c'est valable à l'échelle du pays. Hein. Aujourd'hui, il y a une majorité de syndicats en France qui représentant une majorité de salariés, soutenus par une majorité de l'opinion publique, qui contestent cette loi. On fait comme si ça n'existait pas. C'est comme si au Parlement, c'était les députés minoritaires qui faisaient les lois. Personne n'imagine ça. Personne. Et ben dans le monde syndical, et parce qu'on change aussi, on tripatouille les règles, et bien on considère que la minorité ou le premier syndicat de France, qui ne représente que 23%, hein, et bien pourrait faire la pluie et le beau temps. Enfin, faut qu'on soit cohérent. Démocratie sociale et démocratie politique, ça peut pas. Enfin, la démocratie en tant que telle, ça peut pas être des règles fluctuantes.
Le relèvement de ce seuil des 5% est donc par conséquence, l'exclusion de l'UNSA des discussions, ça pourrait faire partie des conditions qui vous inciteraient à participer.
C'est pas ça. Le problème majeur, c'est pas ça. Hein, vous avez compris. Mais soit on a une règle, on invite tout le monde. Soit on a une autre règle et on invite les représentatives. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Solidaire et la FSU devraient être invités si on invite l'UNSA. C'est tout. C'est tout ce qu'on dit. On peut pas avoir des règles à géométrie variable.
Philippe Martinez, la France est un pays où il y a des colères, beaucoup de colères. Il y a eu la colère des Gilets jaunes. Maintenant, il y a la colère de ceux qui manifestent contre cette réforme des retraites. S'il n'y a pas d'accord trouvé, que va devenir cette colère? Est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, un rôle des syndicats qui sont là normalement pour refroidir les conflits sociaux, comme le dit François Dubey?
Non, on n'est pas là pour refroidir, on est là pour porter des revendications.
Mais ces revendications n'aboutissent pas.
Pourquoi, à chaque fois qu'il y a un blocage, ça serait de la faute des syndicats?
Non, j'ai pas parlé non, de non, faute, j'ai pas... dit qu'est-ce qui va se passer ensuite.
Ou de la responsabilité des syndicats, il faut, quand on dialogue...
Partagée, en tout cas.
Moi, je pourrais vous dire pourquoi il y a un blocage du gouvernement. Mais c'est valable dans les entreprises. Dans cette belle maison, où on veut supprimer 300
Il y a des négociations en cours dans cette belle maison, si vous faites référence à la maison de la radio.
Cette belle maison de la radio, c'est toujours de la responsabilité des syndicats. Pourquoi une direction d'entreprise ou un gouvernement ne pourrait pas dire « c'est vrai, je me suis trompé, on arrête tout ». On vous écoute et on reprend vos propositions. À chaque fois, il y a un genre de pouvoir.
Le gouvernement estime, en tout cas, que c'est du côté des syndicats, d'une part, qu'il n'y a pas de négociation, et surtout, il y a une légitimité du gouvernement élu et dit, voilà...
Mais dans les entreprises, il y a des élections.
Oui, bien entendu,
Les syndicats sont légitimes.
Aujourd'hui, il y a la CFDT, il y a l'UNSA qui sont prêts à négocier avec le gouvernement. Ils sont tout aussi légitimes que la CGT.
Et je vous parle d'une majorité de syndicats représentant une majorité de salariés. Je dis même que dans les entreprises ou les syndicats, parce que le système électoral au niveau syndical n'est pas le même que en politique, il n'y a pas des bulletins CGT dans toutes les entreprises. Il faut être implanté. Or, aux élections présidentielles, il y a des bulletins Macron dans tous les villages. Donc, nous sommes légitimes aussi.
C'est pas cette légitimité-là qui est en cause, mais au fil des discussions qu'on a eues, Philippe Martinez, on vous a interviewé plusieurs fois sur France Culture, il y a eu la colère des Gilets jaunes. Enfin, vous voyez bien quand même que cette France, elle est en mauvais état.
Oui.
Et je pense que ça ne fait plaisir à personne, quelles que soient les opinions des uns et des autres. Cette colère, il va falloir la prendre en charge. Il y a eu une promesse, ou en tout cas une volonté de la part de la CGT de dire « cette réforme n'aura pas lieu ». On a l'impression qu'elle a lieu aujourd'hui, c'est ce que dit par exemple La Croix, qui n'est pas un journal de parti pris absolu. Comment allez-vous faire avec les adhérents de la CGT qui vous ont suivi?
Mais premièrement, toutes les questions restent posées, on attend des réponses. Et c'est pas le camp du mal contre le camp du bien. Nous, on pose des questions. On n'a pas de réponse, juste et simple. Ni juste, ni simple. Et on n'a pas le temps de détailler pourquoi elle est injuste. Et puis, en face, il y a une CGT qui dit on a un système qui est envié par beaucoup de monde dans le monde. Il faut l'améliorer. C'est vous qui avez contribué à le casser. On fait des propositions. Pourquoi, dans un pays démocratique comme la France, il n'y aurait que la voix de son maître qui serait valable? Non, il y a besoin de discuter. Et nos propositions, elles sont fondées, construites, et en plus, tout le monde les comprend. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais nous, ce qu'on dit, tout le monde le comprend. Et on n'est pas que pour le retrait.
Sur cette colère, outre le champ social, est-ce que vous espérez qu'elle va se traduire dans le champ politique, et notamment lors des élections municipales des 15 et 22 mars prochains?
Je pense que ça n'a rien à voir.
Bah, ça peut être aussi un exutoire.
C'est une manière de métaboliser la colère.
Pour nous, évidemment, toutes les luttes sociales doivent avoir un relais politique. En termes de projets politiques, d'alternatives politiques. Mais évidemment, nous, on pose le cadre. Mais on ne va pas faire le boulot des politiques.
Vous n'allez pas faire le boulot des politiques, mais enfin, on n'a pas le temps de vous la faire entendre. Marine Le Pen dit deux choses.
Tant mieux.
Elle dit qu'elle soutient le mouvement, elle dit qu'elle ne vous aime pas. Elle dit des choses méchantes.
J'en suis fier.
Philippe Martinez.
Et j'en suis fier.
Elle dit quand même qu'il faut être dans la rue et que cette réforme des retraites, on n'en veut pas. L'idée que cette colère, finalement, elle aille principalement vers le Rassemblement National. Il y a, je citais ce sondage, 33% des électeurs de la gauche radicale qui ont voté pour Marine Le Pen. Est-ce que ça ne crée pas une responsabilité aussi pour les syndicats comme le vôtre?
Non. Oui, ça crée une responsabilité et nous l'assumons. Parce que nous disons, et nous sommes pratiquement les seuls dans ce pays, à dire que la solution au Rassemblement National n'est pas la bonne, parce que notre ennemi, c'est pas l'immigré, c'est pas le travailleur sans papier. C'est « il faut accueillir des migrants ». Vous avez compris que le Rassemblement National ne dit pas tout à fait la même chose, même carrément l'opposé. Et donc nous n'opposons pas les travailleurs entre eux, mais nous opposons ceux qui nous piquent le fruit de notre travail. Et on dit « il y a du boulot pour tout le monde, quelle que soit sa nationalité, sa couleur de peau ou sa religion ».
Emmanuel Macron a demandé à Christophe Castaner, son ministre de l'Intérieur, de lui faire des propositions concernant la déontologie, pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre. Est-ce que pour vous c'est un coup de bluff ou c'est une manière de reconnaître qu'il y a un problème actuellement de violence de la part des forces de l'ordre, particulièrement dans les manifestations?
Alors, pour ce qui concerne Emmanuel Macron, je pense que c'est beaucoup de communication, mais comme à chaque fois, la question de la violence dans les manifestations, elle existe. Enfin, il y a des images. Après, c'est les raisons. La déontologie, c'est une chose, mais comme tous les fonctionnaires, il y a quand même des problèmes d'emploi, de conditions de travail, aussi dans la police. Aussi dans la police. Et c'est ça qu'il faut traiter. Il y a des problèmes de rémunération, de salaire. C'est des fonctionnaires. Et donc, moi, je pense qu'il faut répondre aussi à des revendications des fonctionnaires dont fait partie la police.
Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, merci d'avoir été
merci à vous.
En notre compagnie. Ce matin, je vous présente mes camarades qui viennent prolonger l'émission, parce que oui, ici aussi, ce sont des camarades, Aurélien Bélanger, Mathilde Serrel et Hervé Gardette. Bonjour à tous les trois. Hervé, de quoi allez-vous nous parler?
De Roger Federer.
Mathilde Serrel.
De la météo des Oscars.
Et enfin Aurélien Bélanger.
Des faits divers qui font concurrence à la littérature.
Dans quelques instants.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Voir le monde au plus près, LSD, la série documentaire. Périne Kervran.
De la formation des volcans à leur surveillance, en passant par les galeries des mines d'or qui empoisonnent l'environnement, jusqu'aux cultures et à la dépollution des sols, cette semaine, LSD traverse la croûte terrestre du magma aux terres arables.
Voyage au centre de la Terre, LSD, la série documentaire, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
8h47, la transition Hervé Gardette. La justice suisse vient de donner raison à des militants écologistes poursuivis pour avoir occupé une banque. Les juges sont-ils meilleurs auxiliaires de la lutte contre le changement climatique?
Dans la grande famille des angoissés du climat, c'est un peu comme entre les Montaigu et les Capulet. Deux camps apparemment irréconciliables s'opposent. D'un côté, celui des petits pas, qui n'attendent plus grand-chose des politiques et se persuadent qu'en additionnant les gestes individuels, on peut changer le monde. De l'autre, celui du grand soir, pour qui le salut ne peut pas venir seulement d'en bas. Pour que ça change vraiment, il faut, directement ou indirectement, s'emparer du pouvoir. Il existe pourtant un terrain d'entente sur lequel petits pas et grand soir peuvent se retrouver. On a tendance à le négliger, mais ce terrain, c'est celui du droit. L'actualité vient de nous en fournir un exemple. Elle suppose d'aller faire un tour en Suisse, au pays de Roger Federer. Vous verrez dans un instant qu'il n'est pas là tout à fait par hasard. Direction Renens, dans l'agglomération de Lausanne, son tribunal de police, son juge et sa douzaine de prévenus, des militants du climat qui comparaissaient pour avoir occupé les locaux de Crédit Suisse en vue de dénoncer les investissements peu écologiques du groupe bancaire. Un outrage, presque une profanation, tant la vénérable institution est constitutive de l'identité nationale. Un petit peu comme si les Anglais avaient envahi Buckingham Palace pour une partie de fléchette. Alors, entendons-nous bien sur la nature helvétique de cette occupation. À la Spaggiari, sans armes, ni haine, ni violence, mais avec des balles neuves. Oui, car les militants déguisés en joueurs de tennis avaient improvisé un match dans les locaux de la banque pour attirer l'attention sur un des champions qu'elle sponsorise, Federer. Alors lundi, ils ont été acquittés au terme d'une audience que le journal Le Temps qualifie d'historique. Et il y a de quoi en effet utiliser les superlatifs. Non pas que le jugement final soit surprenant, voir les militants sortir menottés du tribunal l'aurait été bien davantage, mais ce sont les attendus du juge qui en garantissent l'exceptionnalité. Écoutez bien ce qu'il dit. Les témoignages des experts montrent que le réchauffement climatique est causé par les émissions humaines. L'existence d'un danger doit donc être retenue. Réunir 20 individus sur le trottoir, même devant Crédit Suisse, n'aurait pas eu l'impact déclenché par ce procès. La façon de procéder était donc la seule susceptible d'obtenir ce retentissement. Je continue, enfin c'est le juge en tout cas qui continue. Le climat touche à la santé et à la vie, alors que le lésé n'a été empêché que d'user comme il l'entend de son domicile. La pesée d'intérêt va en faveur des prévenus. J'en conclus que l'acte incriminé était nécessaire et proportionné. Vous avez bien entendu, un juge considère que la cause climatique, non pas excuse, mais justifie l'occupation d'un établissement privé, en l'occurrence un établissement bancaire, ce qui revient à reconnaître que les militants poursuivis n'avaient pas d'autre choix que d'investir Crédit Suisse pour se faire entendre. Alors le hasard veut qu'hier, à l'inverse, deux militants écologistes français ont été condamnés en appel pour avoir décroché des portraits d'Emmanuel Macron qu'ils entendaient interpeller sur son inaction climatique. En première instance, le tribunal correctionnel de Lyon les avait pourtant relaxés, jugeant leur action légitime car relevant de l'état de nécessité. Alors on peut débattre de l'utilité immédiate de ce genre d'actions individuelles, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment elles conduisent le climat à devenir un sujet de droit et la justice a endossé une responsabilité inédite, juger la légitimité d'actions politiques au regard de l'ampleur de la crise climatique. Alors, j'ignore si la connaissance de l'environnement fait partie de la formation des magistrats, mais il est probable qu'ils auront de plus en plus souvent l'occasion de se prononcer sur ces questions. Comme dirait Roger Federer, la balle est dans leur camp.
Merci Hervé Gardette. Mathilde Cyrel, votre théorie culturelle porte sur les auspices des Oscars.
C'est la saison des prix dans le cinéma et le relevé des nominations et des récompenses ressemble à un enchaînement de bulletins météorologiques, tous scrupuleusement analysés pour y déceler les tendances atmosphériques du 7e art. Après la remise des Golden Globes et la sélection des BAFTA, la liste des prétendants aux Oscars a été dévoilée et plusieurs horizons se dessinent alors. Avec 11 nominations pour Joker de Todd Phillips et 10 pour The Irishman de Martin Scorsese, comme pour Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, il est certes apparu que des films d'hommes sur des hommes avaient pris le dessus. Quant à la place de la diversité, elle se montre en recul par rapport à l'année dernière, même si la nomination de Parasite du sud-coréen Bong Joon-ho dans les catégories reines du meilleur film et du meilleur réalisateur marque une ouverture. Mais au-delà de ces critères, ma théorie, c'est que cette sélection fait apparaître d'autres phénomènes climatiques du champ cinématographique. À la fois l'importance de la violence sociale et du méta-cinéma, mais aussi l'évolution du statut des films français. D'abord, la charge explosive qui sourd dans les différentes structures sociales se retrouve à la fois au cœur du Joker et de Parasite, mais aussi des Misérables, le film français qui va concourir dans la catégorie long métrage international. Quant à la dimension que je qualifie de méta-cinéma, elle se manifeste dans l'élection de deux grandes fresques réflexives, Once Upon a Time in Hollywood et The Irishman, deux films qui se retournent sur l'histoire du cinéma et son évolution. Bref, dans un monde où grondent les orages sociaux, le cinéma se branche sur secteur ou choisit de se réfugier dans son propre récit. Venons-en maintenant au statut des films français. Il me semble que la sélection des Misérables de Ladjili, pour représenter la France, révèle une évolution dans la perception du French movie. Bien sûr, cela fait longtemps que nous sommes loin des visions sépia du Paris enchanté d'Amélie Poulain, nommée en 2002. Mais comme le trahissait le sacre de The Artist en 2012, dans les catégories meilleur film et meilleur acteur, c'est souvent lorsque le cinéma français parle de l'Amérique et d'Hollywood qu'il a le plus de chances de retenir l'attention. Avec Les Misérables, Ladjili a certes pu compter sur le passeport de sa référence à Victor Hugo, assurément américano-compatible dans un pays dingo de Notre-Dame. Mais comme l'ont souligné les critiques outre-Atlantique, il y est peu question d'Hugo. En revanche, si le film a été si bien accueilli par la presse américaine et qu'il se retrouve aux Oscars, c'est en partie parce qu'il fait le pont avec des sujets qui travaillent l'Amérique. La misère dans les ghettos et la question des violences policières. Et Ladjili le fait en plus avec des codes qui empruntent au vocabulaire cinématographique américain. Spike Lee et son Do the Right Thing, qui sera d'ailleurs le président du jury du prochain festival de Cannes, on l'a appris hier. Catherine Bigelow et son film sur les émeutes de Détroit, ou encore la référence au grand totem des séries The Wire de David Simon, qui a ausculté la délinquance dans les quartiers défavorisés. Un film français au regard internationalisé, ou américanisé si on veut être exact, et qui touche à des problématiques sœurs. Voilà une nouvelle donne pour le French Movie, assurément un nouveau marché. Voilà aussi pour ma météo des Oscars. J'ajoute que la place pacificatrice accordée aux frères musulmans dans le film de Ladjili pourrait lui valoir quelques précipitations dans le cadre d'une campagne pour les Oscars.
Merci Mathilde Serrel, 8h54 sur France Culture. Aurélien Bélanger, votre conclusion, je vous prie.
Il y a un an sortait Sérotonine, le 7e roman de Houellebecq, et comme à chaque fois, je me suis empressé de le lire. Il y a chez Houellebecq, c'est la grande vertu de son style, une matière qui manque presque toujours à ses contemporains. Une matière, bien plus qu'un sujet. Il n'est pas certain que ce soit là un écrivain réaliste, ni même un écrivain romantique, comme je l'écrivais autrefois, ou bien un peu des deux. La densité de sa littérature, plutôt qu'une affaire de poids, est une affaire de grain. Ses récits, ses adjectifs et ses constructions verbales sont toujours exactes. C'est comme cela et pas autrement qu'il fallait le dire, pour nous engrener au récit. Houellebecq n'est pas un écrivain réaliste, il se confond plutôt avec le degré de réel précis que nous sommes capables de supporter. Son romantisme même tient de cette opération mécanique. Qu'est-ce que le moiré qui nous surprend dans un rideau ou qui nous enchante soudain dans la sombre beauté des romans de Houellebecq? C'est l'échantillonnage d'une grille par une autre avec, simple application du théorème de Shannon, l'apparition d'anomalies si la fréquence d'échantillonnage décroche par rapport à celle du phénomène observé. Concrètement, quand Houellebecq et son lecteur ont un désaccord ontologique, l'envoûtement apparaît. Ce qui m'a surpris, justement, dans Sérotonine, c'est la façon dont Houellebecq, après m'avoir attrapé sans effort d'une simple formule, parvient à me précipiter brutalement dans les escaliers du gothique, dans les souterrains voûtés du romantisme noir. La scène de l'infantis hydraté, l'émeute à la Michael Collas sur une bretelle d'autoroute normande, l'observation à la jumelle du pédophile allemand. J'y ai repensé, justement, non pas tant en raison de l'affaire Matzneff qui écrase cette rentrée de janvier comme Sérotonine avait écrasé celle de l'année passée, mais à cause d'un article du Monde, paru le 3 janvier et signé Rémi Dupré et Florence Omnas, un article qui est ce que j'ai lu de plus houellebecquien depuis Sérotonine. Le titre était en lui-même un chef-d'œuvre, Les carnets noirs de Joël de Squarneck, le chirurgien pédophile. La référence des auteurs aux carnets noirs de Matzneff était-elle volontaire? Je l'ignore. Ce qui ne l'était pas, ce qui ne pouvait l'être, c'était en tout cas la très hegelienne imitation de l'art par la vie dans la longue descente aux enfers du chirurgien pédophile du Grand Ouest qui devenait peu à peu un personnage atrocement houellebecquien. L'affaire est évidemment horrible, avec plus de 300 victimes documentées par le bourreau lui-même. Je la connaissais d'ailleurs, mais ses principaux détails m'avaient jusque-là échappé. Comme ce moment où le chirurgien, on l'entend presque hurler, écrit « Je suis pédophile » en grandes lettres dans son fameux carnet, ou qu'il se livre nu dans son salon de musique, car c'est un amateur d'opéra, à des confessions vidéo, ou que, très placidement traqué par la justice, il passe de prédateur méthodique, recourant jusque-là à tous les services que pouvaient mettre à sa disposition les hôpitaux, ses armes par destination qui s'ignorent, autorité du médecin porte entr'ouverte, anesthésique et à semi-comateux des salles de réveil, prétextes médicaux innombrables, à une sorte de semi-retraite, se contentant de déshabiller des poupées, puis de les doter d'organes sexuels avant de les couper en morceaux quand elles sont hors d'usage. Cela fait longtemps alors que le chirurgien ne se lave plus et qu'il déjeune debout dans sa cuisine, au-dessus de son évier, de boîtes, de conserves froides, une sorte d'ignominie que je croyais presque réservée jusque-là à la littérature et qui reste, c'est le plus effrayant, humaine jusqu'au bout, jusqu'à ces jeux cannibales entre un homme et son vice qui le dévore tout entier. vivant, empoisonné. Je me suis demandé comment Houellebecq aurait pu traiter un tel personnage. Le personnage ambivalent de Sérotonine laissait partir le pédophile allemand, mais il épargnait in extremis l'enfant qu'il avait dans sa lunette de visée, le laissant continuer son puzzle de Blanche-Neige. Il n'avait pas bougé, écrit Houellebecq. Il était toujours concentré sur son puzzle. La robe de Blanche-Neige se complétait peu à peu. L'effet littéraire est là, magistral. Houellebecq était toujours le plus grand écrivain français vivant, mais l'article du Monde parvient in extremis à le rattraper en une phrase, celle qui annonce la chute ultime du chirurgien, finalement dénoncé par sa voisine de 6 ans, sa dernière victime. Des canis séparent leurs deux jardins, mais le Squarneck remarque une brèche ouverte par la tempête un après-midi d'avril 2017. Ces canis ont rejoint, dans le catalogue irraisonné des effets de réel qui rôdent autour de la littérature, le puzzle Blanche-Neige de Sérotonine.
Merci Aurélien Bélanger pour cette conclusion. Merci beaucoup Philippe Martinez.
Merci à vous.
De nous avoir accompagnés ce matin. D'autres choses à entendre sur l'antenne de France Culture et sur le site de France Culture, notamment les idées claires distribuées en podcast et en vidéo sur Facebook, se penchent sur les questions de génération au centre de plusieurs conflits récemment. Les baby-boomers sont-ils des privilégiés? Et puis vous pouvez également retrouver le Superfell de la semaine, toujours en podcast, à télécharger puisqu'il est question de Boeing après le crash de deux 737 MAX 8 et la non-résolution rapide de ce problème. Boeing est aujourd'hui une entreprise en plein marasme. Airbus est passé devant Boeing. Comment expliquer cette situation avec Bertrand Villemer, un expert en aéronautique? Merci à toute l'équipe des matins. Pauline Chanu, Elodie Piel, Mayouen Guizhou, Léa Capuano, Louison Carouet, David Jacoboviez, Nicolas Paumé et Jordan Fuentes. Vous retrouvez donc les idées claires et le Superfell sur le site de France Culture, dont vous connaissez l'adresse bien sûr, franceculture.fr. Dans quelques instants, autrement dit à 9h, le journal de Catherine Dutu. Il est 9h sur France Culture.